rez-de-chaussée. 101.5 FM.
Bonjour à tous, c'est Mickaël de En Transition, vous écoutez l'émission Ça c'est Climat. L'émission des initiatives citoyennes pour un monde plus solidaire et plus écologique. Bienvenue, nous sommes le 10 janvier ou peut-être le 24 janvier si vous écoutez la rediffusion. Alors aujourd'hui, nous avons quatre invités, deux invités de l'association Zéro Déchet Montreuil-Junier. Bon, je sais que vous avez un autre nom un peu plus compliqué, mais vous nous direz ça. Et puis deux citoyens mobilisés autour des composteurs collectifs qui se sont installés à Angers. Mais avant revenir sur vos projets, l'actualité d'En Transition, avec toujours donc la diffusion de Demain en Poche, le guide des initiatives locales pour un monde plus solidaire, plus écologique. Alors rappelons où est-ce qu'on peut trouver ce guide. On peut trouver ce guide chez nos partenaires, la Biocoop La Pyramide au Pont-de-Cé, l'épicerie de Pauline rue Saint-Julien Angers, le Vélobar rue Bressigny, chez mon biocamion en itinérant sur ces lieux de passage. Il est sur un nouveau marché sur Angers dont le nom m'échappe. Bordillon, voilà, c'est ça. Et puis, il est aussi en vente à la librairie Contact à Angers. Et puis, depuis quelques jours, il est en vente également chez Quoi de plus naturel à Douai-la-Fontaine et à l'Écho des Bocaux, l'épicerie zéro déchet de Saumur. Voilà, donc vous trouverez Demain en Poche dans ces lieux. On a aussi des événements à venir, donc on sera présent lors du spectacle Hommage de la compagnie Morpho, qui est le 22 et 25 janvier. Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps de reconnecter le Wi-Fi, donc j'ai pas toutes les informations, mais je vais les redonner tout à l'heure quand on fera l'agenda. Le 22 janvier, c'est à 20h30 de la Claude Chabrol à Angers, et puis le 25 janvier, c'est à Saint-Clément-de-la-Place. Et puis, donc on sera présent, ce spectacle de danse, pièce chorégraphique amateur dont était venu parler Yasmina et Agnès lors de la dernière émission que vous pouvez réécouter sur le site de Radio G. Une partie des fonds sera reversée à En Transition en soutien à notre projet associatif. Et puis nous serons présents également lors de l'événement Vivre mieux avec moins Habit Transition qui est justement organisé par l'association zéro déchet, Montreuil. Et donc nous allons en parler eh bien, tout de suite. Oh là là, mon Dieu, c'est l'hiver, j'ai pas eu le temps de prendre tous mes trucs. Bienvenue, bonne année, je n'ai même pas eu le temps de vous souhaiter la bonne année. Et bonne année aussi, auditeurs, auditrices.
Voilà, bonne année à tout le monde, et puis que ce soit une bonne année de transition pour tout le monde.
Voilà, et donc pour que ça soit une bonne année de transition, eh bien vous avez concocté un petit projet qui est quand, qui est quoi, qui est où. Dites-nous tout.
Alors, ce projet, c'est une grande manifestation sur la transition. Alors nous, on est essentiellement centré sur le zéro déchet. On n'est pas spécialiste de tous les domaines de la transition et on a décidé de rassembler des acteurs spécialistes dans la transition sur les questions de mobilité, sur les questions d'alimentation, sur les questions d'argent, sur les questions de consommation. Donc, on a fait appel à plusieurs partenaires et on va être nombreux à tenir des stands. Donc, pour les questions de mobilité, on aura des gens comme Place au Vélo, donc une grosse association sur le Maine-et-Loire qui milite pour d'autres types de déplacements plus doux. Sur des questions d'alimentation, on va avoir une AMAP. Sur des questions de zéro déchet, nous on sera présents traditionnellement avec nos stands où on est bien connu à présenter quelles sont les solutions pratiques et à la fois économique pour passer à ça. Et on aura la même chose sur tous les domaines. Au niveau de l'argent, on a l'association Lamuse qui propose une solution de monnaie locale pour faire circuler l'argent sur le Maine-et-Loire et que l'argent serve aux habitants, et ainsi de suite. Donc cette grande manifestation a lieu à Montreuil-Juigné. Donc ça veut dire que c'est le 26 janvier de 10h à 17h. Donc on a une grande salle qui s'appelle la salle Jacques Brel, qui est proche du centre-ville, sur lequel on va dérouler tout un programme. Donc la salle sera séparée avec un espace échange. Donc dans cet espace échange, il y aura des conférences, notamment une conférence à partir de 10h30 de l'association Lamuse, qui va nous expliquer en détail qu'est-ce que c'est qu'une monnaie. Quels sont les intérêts, comment les commerçants peuvent l'utiliser, comment on l'insère dans sa comptabilité, qu'est-ce que la muse mégo, on va dire quelque chose qui un mélange entre du zéro déchet, du ramassage et de la monnaie. Donc au fur et à mesure de la journée, on aura cet espace échange qui va s'animer, donc à 10h30, monnaie locale, à 13h, un grand pique-nique citoyen. Donc chacun peut venir avec son pique-nique en forme zéro déchet. Ensuite, à partir de 14h15, un échange sur la permaculture. Alors c'est des citoyens, souvent on se met un petit à petit dans son jardin et puis on commence à expérimenter, on va regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe et on veut faire se rassembler des gens qui commencent à expérimenter, qui échangent leurs bonnes pratiques. Voilà. Et ensuite, on aura les personnes qui nous ont invités aujourd'hui, donc à 15h30, en transition, qui va nous présenter la transition par les associations. Donc cette grande journée de 10h à 17h est gratuite, ouverte à tous, et il y aura un bar où chacun pourra participer avec thé, café, sirop, tout ça dans une très très bonne convivialité.
Carrément. Mais alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de se lancer dans ce projet d'événement ?
Alors, nous avant de faire l'historique de l'association, il y a un livre qui nous a beaucoup marqué. Ça veut dire que Zéro Déchet, il y a Jérémy Pichon qui a écrit Famille Zéro Déchet. Donc ça a été une petite révolution, donc c'était on va dire une manière ludique et appréciable de dire c'est quoi vivre zéro déchet. Alors c'est pas forcément synonyme de récession, c'est synonyme souvent de beaucoup de bonheur. Ça veut dire qu'on va arrêter de passer du temps à pousser un caddie dans un supermarché et puis on va se faire trouver plein d'acteurs locaux qui vont nous permettre de vivre différemment. On va dire on achète en direct, en vrac et ainsi de suite. Donc Jérémy Pichon, il a passé beaucoup de temps sur le zéro déchet et puis un jour il s'est dit c'est bien le zéro déchet, mais ça ne va pas assez loin dans la transition, c'est-à-dire je n'agis pas assez sur mon bilan carbone. Et il a écrit un deuxième livre qui est passionnant, qui s'appelle « Famille en transition ». Donc toute sa petite famille a expérimenté comment on peut aller plus loin sur la réduction du carbone. Donc ça veut dire quand il s'est posé la question sur son argent, Il s'est posé la question sur ses déplacements, il s'est posé la question sur son alimentation, et ainsi de suite. Et ce bouquin-là, ça a été un petit peu la base pour dire ben, quels sont les thèmes qu'on va aborder dans ce forum de la transition. C'est-à-dire que c'est un peu basé sur les chapitres que Jérôme Pichon a fait. Il a dit, ben voilà, ben, comment on fait pour l'argent demain ? Comment on fait pour l'alimentation ? Comment on fait pour les services publics ? Il a abordé tous les thèmes, et puis il a, en fin de compte, décomposé pour dire, ben voilà, voilà les solutions. Alors, pas simplement des solutions françaises qui se passent aussi, il a été aussi voir ce qui se passe à l'étranger de biens, des fonds en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Hein. Donc, il s'est beaucoup inspiré aussi des écrits de Rob Hopkins, ouais, qui est, on va dire, une personne anglaise qui a créé à Totnes, on va dire, les premiers concepts de ville en transition. C'est-à-dire comment on fait une ville plus résiliente, à la fois pour les problèmes de changement industriel. Donc, il a créé ça. Donc, le premier base, c'est ce bouquin-là. Il est vraiment génial. On devrait tous l'avoir dans sa bibliothèque. Et on va rendre aux habitants, on va dire, l'envie d'aller vers cette transition-là de manière pratique. Mmh. Et la deuxième chose qui nous a donné envie, c'est que depuis qu'on est zéro déchet, eh bien, on est invité dans des manifestations et on rencontre plein de gens qui sont dans cette transition-là. Donc on a été invité à Domerey, par exemple, ce qui est un peu dans l'extrémité du Maine-et-Loire, et on a vu qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de faire des choses, donc avec d'autres partenaires, et on s'est dit, ben, faire un forum où plein de gens se rencontrent, c'est vraiment génial. Donc on a dit, ben, pourquoi pas nous, on va dire, avec le réseau qu'on a tissé et créé, refaire la même chose pour que tous les habitants puissent voir les solutions concrètes, opérationnelles, faciles, positives, pour aller vers la transition.
Ben oui, c'est vrai ça. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est, il y a toujours besoin, hein, de proposer ces temps de rencontre, ces temps d'échange, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se posent des questions. On avait pu organiser, nous, il y a quelques années, Alternatuloire, la fête de la transition. Encore plus précédemment, il y a eu des forums sociaux locaux sur ces questions-là. Mais on voit que c'est important régulièrement d'avoir ce type de moments qui permettent, en fonction des parcours, bah, des personnes. C'est le moment où là, elles sont prêtes. Elles ont eu une lecture, comme toi, elles ont été happées par une lecture, elles ont été happées par un film, et c'est le moment pour elles de rencontrer. Avec le guide Demain en poche, on offre quelque chose pour des gens qui ont déjà envie, et on donne toutes les portes d'entrée. Mais pour des personnes qui sont en cheminement, c'est vrai qu'avoir l'opportunité de rencontrer des acteurs et d'échanger, de discuter, c'est quand même appréciable. Peut-être une touche féminine à cette parce qu'il parle beaucoup, le monsieur.
Il parle beaucoup, oui, non, mais il est très bavard et très engagé, donc voilà.
Mais oui, c'est la motivation qui parle.
Oui. Alors l'idée, c'est effectivement, nous, on est dans une démarche comme ça, mais la seconde idée, c'est aussi, il faut qu'on arrive à convaincre d'autres personnes de le faire, parce que si nous on fait, c'est bien pour nous. Mais on est convaincu, il faut qu'un maximum de gens puissent le faire. Donc, l'idée, c'est d'informer, d'échanger, de montrer, etc. L'association organise des ateliers où on montre directement comment on peut faire pour éviter les emballages, fabriquer des petits sacs de toile, faire des bivraps, comment on peut faire aussi pour éviter tous les déchets, les couches, les choses comme ça. Il y a plein d'idées. Et montrer que ça existe, qu'on peut le faire, parler de son expérience. Et en fait, ça fait venir des curieux, pas forcément des gens absolument convaincus au départ. Et puis ces gens-là, ils commencent à réfléchir, puis ils se mettent un petit peu dedans, et petit à petit, on avance là-dessus. En fait, c'est partager son expérience pour que la transition, elle devienne de plus en plus quelque chose d'automatique.
Oui, parce que on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, mais parfois, c'est comment je fais concrètement. Et du coup, c'est vrai que c'est là que c'est intéressant, ce que vous proposez avec ces ateliers, avec rencontrer des acteurs qui ont déjà mis en place des choses pour montrer que c'est possible, en fait. C'est vraiment ça, un peu, l'enseignement de Rob Hopkins, c'était de se dire, l'imagination, c'est très important. Il y avait un article il n'y a pas longtemps là-dessus, mais il y a aussi le faire. Et souvent, c'est par le faire que on trouve la motivation de changer ses habitudes et de se dire bah oui, c'est possible, et d'embarquer avec soi sa famille, son conjoint, ses voisins, comme vous pouvez le faire vous localement.
Voilà, mais en fait, pour moi personnellement, par exemple, ça a commencé avec la MAP.
Voilà.
Création d'une AMAP, tiens, c'est une idée intéressante pour avoir des bons légumes. Et puis, effectivement, travailler en local, que l'argent que je vais dépenser pour me nourrir, il serve à payer réellement le travail de celui qui fournit et pas des actionnaires, etc. Donc, c'est la première étape. Et puis, autour de ça, après, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se rajoute, en fait. Mmh. Puis on s'aperçoit que, ma foi, c'est pas très compliqué. Il faut juste penser un petit peu, avant d'aller faire ses courses, à il me faut les récipients pour, ou les sacs, ou les etc. Mais on finit par prendre le réflexe sans réfléchir, voilà, c'est ça.
Après, ça devient une habitude, un automatisme, et on n'y réfléchit plus. C'est comme trier ses déchets, au début, où est-ce que je mets le truc et tout ça. Et puis maintenant, on ne se pose plus la question, on met directement dans la bonne poubelle.
Voilà. Et des choses très pratiques, effectivement. Y a eu un atelier, par exemple, organisé sur un goûter zéro déchet pour les enfants. On portait à l'école.
Oui.
Basique, mais important.
Et avec des enfants qui peuvent être très difficiles. Et donc, il faut savoir aussi, justement, prendre en compte la vie, l'envie, donner envie, montrer qu'on peut faire prendre plaisir.
Donc là, sur un goûter, par exemple, zéro déchet, une des astuces, c'est les gourdes quiz. C'est des gourdes qu'on peut re-remplir et relaver. Donc ça veut dire que ça donne l'effet d'être comme les autres, mais on a quelque chose avec une compote faite maison. Donc ça, c'est super. Et puis les enfants, il y a un côté ludique. Une autre astuce qu'on donne, c'est faire des gâteaux tous les 2-3 jours, c'est un petit peu compliqué. C'est faire des gâteaux dans des pots de confiture. Ça veut dire que vous prenez une quinzaine de pots de confiture, vous remplissez de pâtes, des pâtes de type 4 quarts. Donc ça veut dire que ça va gonfler. Et après, vous faites comme un pot de confiture, vous les sortez un par un du four, vous coupez le chapeau, vous mettez un couvercle et vous le retournez comme une confiture. Et votre gâteau, il va se conserver 2 mois. Parce qu'il aura fait le vide avec le chaud du gâteau. Et donc, c'est une des astuces pour avoir plusieurs gâteaux différents et toujours avoir, on va dire, un petit goûter frais pour ses enfants et qu'ils puissent en porter.
Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre dans la vie. Et donc, pour en apprendre des nouvelles et des belles, rappelez-nous, ça sera donc à Montreux-Juigné.
Le 26 janvier, de 10h à 17h. Donc, avec...
À la salle.
Alors, à la salle Jacques Brel, voilà. Qui est juste, on va dire, à 500 mètres du centre-ville en allant vers la route de Cantenay.
D'accord. Alors, on fait une petite pause musicale et puis on revient pour que vous nous parliez un peu plus de votre association et de vos autres projets.
It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Start looking around, you will get it all. The omens, all the signs that leave you can't change for the better. Make some good things down the line. For tomorrow will be what we sow today. Tomorrow will be if we change. Of a tree, the sky is too covered to see. A picture of a horizon, a place where we can build a home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole world is on hold now. We'll do anything to survive. See the final show now. Thank
Vous écoutez Ça c'est Climat sur Radio G 101.5 FM. On écoutait Tomorrow de la bande originale du film Demain, une musique appropriée par rapport à nos invités qui préparent donc cet événement sur la transition. Alors prenons un petit peu de temps quand même pour parler un peu de votre association, depuis quand vous existez, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos autres projets au-delà de cet événement de janvier.
Alors je vais vous parler un peu de l'historique de l'association. C'est une très vieille association qui s'appelle réellement ADEMJ, Association de défense de l'environnement de Montreux-Juigné. Alors, elle a été créée il y a très longtemps, au moment où il n'y avait pas d'autoroute qui contournait Angers. C'était avant, et c'était au moment où on ne savait pas si cette autoroute-là allait passer à Avrillé ou à Montreux-Juigné. Donc, il y a deux grosses associations qui se sont montées, celle-ci à Montreuil et les Cactus à Avrillé. Et l'association a eu plusieurs, a été mise un petit peu en sommeil, et puis elle a repris de l'activité depuis 5 ans. Donc on s'est d'abord intéressé au défi à famille à énergie positive. C'est un défi national, libre, gratuit, et l'idée c'est qu'avec des éco-gestes, faire économiser 200 € par famille. C'est pas rien. C'est-à-dire quand on se met à faire attention à l'environnement, c'est souvent aussi bon pour son portefeuille. Et on a créé un bon groupe, on a touché 50 familles sur Montreuil-Juigné et les alentours, donc on a été très représentés, et on s'est dit comment on peut aller plus loin, d'où l'idée d'aller vers le zéro déchet. Donc maintenant on communique sur notre groupe Facebook où il y a quasiment 350 personnes, on communique sur Zéro Déchet Montreuil-Juigné, qui est devenu notre activité principale et notre activité, on va dire, visible. Alors, on essaye toujours d'aller vers la transition. Et Brigitte va vous présenter nos activités en cours.
Autour du zéro déchet, donc.
Alors, autour du zéro déchet, mais pas que. On réfléchit aussi aux problèmes de mobilité, de covoiturage, économie d'énergie, évidemment toujours. Et puis, on essaie d'avoir aussi une dimension européenne. On a une ville jumelée en Allemagne, qui est aussi très active dans la défense de l'environnement, dans les actions pour la défense de l'environnement. Et on a prévu un certain nombre d'actions à faire ensemble, dont entre autres au mois de mai, une visioconférence sur le thème de comment limiter et éviter les déchets plastiques et économiser l'eau. Et donc, en amont, chaque ville, on va participer avec des Suédois aussi, chaque ville va présenter ce qu'elle fait jusqu'à présent, et puis ensuite réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire mieux et décider d'actions que les trois villes mèneraient chacune de leur côté avec les participants à cette conférence qui seraient des ambassadeurs. L'idée, c'est qu'il y a aussi des jeunes dedans. Et on va aussi sensibiliser les jeunes qui sont déjà sensibles de toute façon, mais les faire se rencontrer. On va organiser un séminaire européen avec des Polonais, des Allemands, des Suédois et des Français, des jeunes de 16-18 ans, sur le thème justement de la défense de l'environnement et réfléchir pour qu'ils deviennent à leur tour dans leur ville des ambassadeurs de la transition, de la protection de l'environnement. Donc, ce sont des actions qui créent aussi un esprit européen, dans l'esprit du jumelage. En fait, notre association ADEMJ travaille avec beaucoup d'autres associations, finalement, pour aller vers la transition.
Et on retrouve bien le pensée globale, agir local, avec ce que vous nous dites là. Et c'est vrai que c'est montré qu'on peut agir chez soi. Vous, c'est à Montreuil-Juigné, mais être citoyen du monde, en fait, et justement avoir cette dynamique qui motive, parce que on le dit, c'est pas forcément évident de se dire qu'est-ce que je peux faire chez moi, comment je vais m'y prendre, faut que je change mes habitudes, etc. Et se rendre compte qu'en fait, on est dans un mouvement mondial, qu'il y en a d'autres qui font ça ailleurs. Et puis c'est vrai que pour la jeunesse, ça peut être intéressant aussi, ce côté un peu exotique, je dirais, je ne sais pas comment dire, pour sortir un peu le nez de son quotidien, ouvrir l'esprit. C'est vraiment chouette. C'est avec la fête de l'Europe, le 9 mai, sans doute, c'est autour de cette... C'est pas forcément le 9 mai, mais c'est autour de cette dynamique,
dans cette semaine de l'Europe. Et A priori, ça se fera le mercredi après-midi, justement pour que des jeunes puissent participer, parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, on est en train de préparer ça.
Ouais. Et alors, comment ça se passe, l'accueil des Montreuillais ? Montreuillais, on dit, c'est bien ça ? Bon, là, Montreuillais, Montreuillaises. Alors, vous êtes une vieille association, mais du coup, comment vous sentez la dynamique, en fait, citoyenne, cette mobilisation des citoyens actuellement, et tout ça ?
Il y a des choses qui sont organisées à titre régulier. On a par exemple les mardis zéro déchet. Ça veut dire que c'est une rencontre régulière qui est faite une fois par mois où les gens, sur inscription, parce qu'on a une petite salle limitée de 20 personnes, où les gens peuvent discuter zéro déchet. Donc ça, c'est libre, ouvert à tous, et on peut juste s'inscrire pour une fois et sur un thème précis. Donc là, on a un lien direct avec la population. Ensuite, on a participé par exemple à la fête de la nature. Donc il y avait plein de stands, comme dans pas mal de communes du Maine-et-Loire. Et puis nous, on avait notre stand zéro déchet. Donc là, les gens déambulent et puis on discute. Donc on est très très en lien avec les fêtes locales ou les événements locaux. Et puis ensuite, on essaye de, on va dire, diffuser tout le zéro déchet dans toutes les associations, notamment les associations sportives. Et il y a un certain nombre d'associations, comme on peut dire par exemple le club de hand, ça y est, ils ont supprimé toutes les bouteilles plastiques, et ça veut dire qu'ils achetaient des tas de packs, comme beaucoup d'associations sportives, et ça y est, les bouteilles plastiques, il n'y en a plus dans ce club-là, et ils sont tous passés à la gourde. Donc ça, c'est des petits succès, et l'idée, c'est de diffuser l'ensemble de ces bonnes pratiques zéro déchet dans l'ensemble des associations pour que quand on fait un événement, un pot, on ait tout de suite la pensée, on évite l'emballage. Donc ça veut dire que c'est le fait d'être très en lien avec les responsables d'associations ou simplement des gens, ça nous aide en fin de compte à diffuser l'ensemble des bonnes pratiques dans la ville avec lesquelles on est tous très impliqués.
On peut aussi parler de l'autocollant qui a été distribué aux commerçants volontaires le fait que les clients peuvent apporter leur contenant et qu'on met la marchandise achetée dans le contenant du consommateur plutôt que de le mettre dans un sac plastique, dans un sac papier, enfin, etc. Et on s'aperçoit d'ailleurs sur le marché, par exemple, qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec leur petit sac en toile ou leur bocaux pour mettre quelque chose. Et effectivement, ça prend.
Mais oui, ça prend. Alors écoutez, chers auditeurs, auditrices, j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour développer ces initiatives dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville. Et si vous voulez en découvrir d'autres ou prendre des conseils, eh bien, on vous donne rendez-vous le samedi. 25 janvier.
Le dimanche. 26 janvier, de 10h à 17h, à Montreuil-Junier, salle Jacques Brel.
Voilà, il y aura toutes les animations. Donc, vivre mieux. Ah, vivre mieux avec moi, j'ai du mal. Vivre mieux avec moi. Happy transition. Bien, merci beaucoup. Et puis, donc si vous nous écoutez le 10 janvier, c'est dans un petit peu de temps. Si vous nous écoutez le 24 janvier, eh bien, c'est après-demain, le dimanche 26. Et puis, on fait une pause musicale. Et puis, on revient pour parler d'une initiative à Angers, de composteurs collectifs. Ils ont fait la une du Courrier de l'Ouest et des Stars. Et ils sont en studio avec nous. Si la musique se lance.
L'envie et viennent mettre en appétit.
Voilà, vous écoutez Radio G 101.5 FM, c'est l'émission Ça c'est Climat, l'émission des initiatives pour un monde plus solidaire et plus écologique. Et nous accueillons les initiateurs d'une super initiative qui est des composteurs collectifs dans le centre-ville d'Angers. Bonjour Bérangère et bonjour, j'ai déjà oublié ton prénom, c'est ce matin, aujourd'hui ça va pas, je tousse, c'est l'hiver, il va falloir que j'aille faire la sieste après. Christian, et en plus je vous ai même pas mis les micros, c'est vraiment... Bonjour.
Bonjour.
Alors, un composteur, voilà, peut-être rappeler quand même ce que c'est un composteur, même si ça devient quand même très, très connu, mais... expliquer un peu la spécificité de ce composteur, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au composteur que chacun peut avoir chez soi?
Alors, on va rappeler ce que c'est le compostage, hein. C'est déjà mettre ses déchets verts et autres déchets organiques, on va dire, dans un endroit où il va y avoir une faune qui va venir dégrader cette matière pour en faire du compost. Donc ça, c'est la base du compostage.
Voilà, donc c'est vos épluchures de fruits et légumes.
Voilà. Les coquilles d'œufs, ça peut être également des sachets de thé où les sachets sont biodégradables et pas voilà. Des sachets de thé en plastique.
Une plante verte qui a mal tourné.
Enfin voilà, tout ce qui est organique. Alors, la spécificité du composteur en pied d'immeuble, alors là c'est pas du pied d'immeuble mais c'est en centre-ville plus exactement, c'est aussi en pied d'immeuble, je dis en pied d'immeuble parce que ça a vocation à être dans des endroits où les personnes n'ont pas de jardin et ne peuvent pas composter eux-mêmes dans leur parcelle de jardin ou dans un composteur collectif qui serait mis à proximité de leur habitation. Donc c'est un composteur qui est installé sur du béton, enfin sur l'aménagement de la voirie. Et alors comment on composte? Parce que normalement le compostage ça
il
se fait dans
terre.
Un composteur et il y a la terre en dessous. Donc là on n'a pas de terre. Donc ce magnifique matériel possède un sol qui est reconstitué. Donc on vient amorcer le composteur avec de la terre issue de composteurs collectifs. Donc c'est la Belle Verte qui nous a fourni ce compost-là. Et donc on amorce le matériel et on recrée un sol avec ça dans le composteur.
Voilà.
Il y a un petit emplacement qui est fait pour. Et après, donc, tous les petits vers et autres collemboles qui s'y trouvent vont venir migrer dans les différents compartiments qui se trouvent dans le composteur. Donc on fera peut-être un petit des points techniques avec Christian après.
Qui maîtrise tout ça, d'accord.
Voilà.
Oui, parce que donc on parle bien en fait de l'hypercentre. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas moi par exemple, j'habite dans un immeuble, j'ai un composteur dans ma résidence parce que la résidence possède en fait des espaces verts.
Tout à fait.
Mais parfois en hypercentre, il n'y a pas du tout d'espace vert parce que l'hypercentre c'est un parc, mais le parc est pas très adapté toujours pour mettre des composteurs, ou en tout cas pas pour tout le monde.
Tout à fait.
Et donc on avait très peu de solutions jusque-là. Il y avait la solution des composteurs avec les verts. Mais c'est pareil, il faut avoir de la place, c'est pas forcément évident, et donc là ça apporte une nouvelle solution à tous ces gens qui habitent en hyper-centre-ville sans espace vert et qui n'avaient pas de solution pour
fait.
Le compostage.
Tout en sachant que le lombricompostage c'est plus contraignant en plus que le compostage standard, on va dire, puisqu'on peut pas mettre tous ces déchets et en plus les vers ne supportent pas les différences de pH, les différences de température, donc c'est vraiment, il faut vraiment s'en occuper. Là c'est le compostage qu'on propose, c'est
plus accessible.
C'est plus accessible, c'est bien plus simple et puis c'est convivial. C'est aussi ça
voilà.
le gros plus.
Donc ça explique pourquoi on est obligé de recourir à ce sol artificiel, comme tu expliquais,
oui.
qui est pas la solution idéale, mais qui du coup est adapté pour ce cas de l'hypercentre-ville. Et alors comment ça marche peut-être ce composteur? Tu peux nous l'expliquer un peu?
Alors comment ça marche? C'est un mobilier urbain. Ça représente à peu près un cube de 9 mètres cubes, puisqu'il mesure en 3 mètres par 3 mètres et 3 mètres de haut. C'est véritablement un mobilier urbain qui s'insère bien dans les quartiers, donc hors sol, et il comporte plusieurs silos. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et pour apporter beaucoup de confort. Donc il a un système de haillons avec des vérins pneumatiques. Il a donc deux silos d'apport qui correspondent à des apports sur l'année à peu près de plus de 5 mètres cubes. Il a un silo à l'arrière pour de maturation. Il a sur sa toiture une toiture végétalisée avec des plantes de sédum. Il a un bac récupérateur d'eau de 500 litres d'eau. Voilà, beaucoup de fonctionnalités pour apporter beaucoup de confort à ceux qui vont emmener les biodéchets pendant les permanences.
Ouais, et c'est peut-être, voilà, peut-être qu'on peut rentrer un peu dans la technique du compostage, parce que tu parles d'apport, de maturation. Ouais. Peut-être expliquer justement comment ça se passe concrètement.
Alors ça a débuté le soir même de l'inauguration, le 16 décembre. Donc les résidents, enfin les premiers, puisqu'en fait on a été saturés presque dès au départ, puisqu'on peut accepter une quarantaine de foyers, ça veut dire une centaine de participants, mais ça veut dire peut-être beaucoup plus, parce que 100 participants qui amènent leurs déchets, ça équivaut à un quartier de 500 personnes, oui, donc un grand quartier. Donc ils amènent leurs biodéchets, alors quand ils sont accueillis sur place, ils sont accueillis sur place par des bénévoles, donc en amont, Bérangère et Morane ont participé au recrutement des bénévoles, parce qu'il a fallu recruter des bénévoles pour qu'ils soient.
On y reviendra tout à l'heure sur toute place. La dynamique, voilà. Comment le projet aboutit. Ouais.
Ouais. Et donc on les accueille, il faut qu'ils soient inscrits, et on pèse leurs biodéchets, donc on a une balance mécanique voilà, pour peser leurs biodéchets. Ensuite on a un aspect visuel pour vérifier la qualité de leurs déchets. Ensuite ils déversent leurs déchets, c'est eux-mêmes qui les déversent dans le premier silo. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui amènent la partie carbonée, puisque dans ce dispositif, qui est appelé Ecovore, il y a une partie banc de stockage, de broyat. Et ça permet aussi d'avoir une convivialité, c'est-à-dire de s'asseoir, de pouvoir faire des animations. Donc les personnes qui amènent les biodéchets, c'est eux-mêmes qui déversent cette partie sèche de broyat dans le silo. Et c'est eux qui remuent toute cette partie. Lorsque le premier silo est plein, donc ça équivaut à peu près, on a fait des études pour connaître un peu la durée. Donc sur 6 à 8 semaines, on va remplir ce premier silo.
D'accord.
Quand le premier silo est plein, on passe au deuxième. Pendant que le deuxième se remplit pendant 6 à 8 semaines, le premier se tasse un petit peu. Donc la maturation commence à se faire. Et là, voilà donc le système qui est spécial sur ce dispositif, c'est que, vous savez, sur les systèmes qui sont en pied d'immeuble actuellement, il fallait brasser le compost. Donc on a des incidents musculo-squelettiques. Et donc avec ce dispositif, ce nouveau dispositif, donc nouvelle génération, qui a été conçu par la société Faltasi à Nantes, on monte ce silo avec un treuil qui est breveté. On monte ce silo à une hauteur suffisamment haute, on enlève les planches sur le côté, et ensuite avec un croc, on prend cette partie qui est à moitié maturée et on la déverse sur un bac de maturation à l'arrière. Et là, on va continuer la maturation pendant que les silos se remplissent. Voilà donc le système. C'est un système qui apporte beaucoup de confort et de convivialité.
Voilà, parce que c'est vrai que là, je vais peut-être donner un peu quelques éléments, parce que la transition, c'est pas des petites fleurs bleues, etc. C'est aussi de la technicité. Et là, sur cette question du compostage, on voit toute cette technicité parce qu'on est sur le vivant, et du coup, c'est pas simple, et il faut trouver les bons équilibres. Donc, tu évoquais entre les apports organiques de déchets, azotés, humides, et puis des matières sèches, du carton, du bois, etc., pour trouver un équilibre, parce que si c'est trop humide, ça va pas fermenter correctement, si c'est trop sec non plus, donc il y a tous ces aspects d'équilibre, et puis le fait de mélanger régulièrement les éléments pour que, justement, il n'y ait pas... Enfin, que la fermentation puisse être homogène, que les animaux puissent circuler. Enfin, voilà, il y a toute une connaissance à développer. Et c'est ça qui est intéressant
y a
aussi autour de ça.
Il y a l'équilibre azote carbone, il y a l'équilibre au niveau de la température aussi. Il faut savoir que les lombriques, ils aiment pas trop le froid ni trop température haute, et que le compost, ça chauffe quand ça commence à maturer. Donc il faut qu'on vérifie un petit peu aussi si la température elle est conforme pour que nos petites bêtes elles soient bien et qu'elles fassent bien leur travail. Et puis il y a aussi les pH qui sont très importants. Par exemple, Christian a évoqué les apports. Il y a vraiment un aspect aussi très pédagogique lorsqu'on fait les apports, c'est-à-dire qu'on aide les gens, on les accompagne et on leur explique comment il faut découper leurs biodéchets, en quelle mesure il faut mettre plus ou moins d'agrumes, par exemple, parce que les pH sont très importants, les agrumes, et on va venir plus ou moins perturber la faune à l'intérieur. Donc, il faut savoir un petit peu quel pourcentage on va mettre. Normalement, ça se passe bien sur le global en fait, des apports, vu que les apports ils sont assez différents. On a des personnes du quartier qui viennent apporter, mais il y a aussi les goûters des enfants à l'école Bordillon juste à côté. Et puis, il y a aussi l'EHPAD juste à côté, la maison de retraite. Mmh. Donc, les apports sont assez diversifiés. Donc, sur la masse, tout le monde peut apporter ses agrumes. Mais bon, c'est bien un petit peu de sensibiliser les gens là-dessus.
Voilà. Et puis sur les aspects techniques, donc tu as expliqué d'éviter de se faire mal, hein, parce qu'on n'est pas là pour se faire mal.
Non.
Donc de trouver des mécanismes, des outils techniques, des solutions qui permettent de faire ça sans prendre de risques pour sa santé. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis après on pourra revenir pour expliquer un peu comment vous avez réussi à faire aboutir ce projet, parce que c'est parti d'une idée. Et là, maintenant, on est à la réalisation et un peu expliquer toute cette dynamique. Et puis, aujourd'hui, où vous en êtes et comment ça se passe pour les suites.
Super.
Voilà, donc ça sera après. J'ai perdu le truc. C'est parti.
Radio G 101.5
FM.
Voilà, Mickaël, en transition, on prend la suite. Voilà, on vient d'expliquer un composteur, comment ça fonctionnait en élément large. Mais pour en arriver là, ça a été un travail de mobilisation. Hein, comment on passe de l'idée à la réalisation. Et c'est ça qu'on va aborder maintenant. Alors, comment ça a démarré?
Alors, je pense que chacun dans notre coin, on avait conscience qu'on avait envie de faire un geste pour la nature, pour l'environnement. Ça part de conscience environnementale, hein, de base. Et moi, personnellement, j'ai eu ma conscience environnementale qui a rencontré l'initiative du budget participatif 2018 sur Angers, au même titre que la conscience environnementale de Christian et de 10 autres personnes, à peu près, qui avaient... On a tous déposé un projet en faveur de composteurs collectifs urbains. Voilà, donc cette idée-là, on l'a tous déposée sur le site Écrivant Angers. Et une étude de faisabilité du projet a été menée par l'équipe du budget participatif. Et par la suite, ils nous ont tous contactés pour nous dire que notre projet était viable. Donc, c'était à peu près au mois de mars 2018, c'est ça, Christian?
Mars 2018,
voilà.
Ouais. Mais viable, ça ne veut pas dire retenu.
Pardon?
Viable, ça ne veut pas dire retenu.
Alors, voilà. Ça ne veut pas dire retenu, parce que là, c'était la première étape. C'est-à-dire que le projet ne devait pas nécessiter de frais de fonctionnement sur le long terme pour être éligible au budget participatif. Donc par la suite, on a tous été réunis, les 10 personnes, donc une partie s'est déplacée sur la réunion et on a dû constituer des groupes de travail sur le projet pour mener à bout à bien le projet. Donc on est à terme, on est restés tous les trois. Donc il y a Morane, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on salue, Morane Berthelot, qui est une grande active du projet au même titre que Christian et moi-même. Et donc, on s'est mobilisé à fond pour que ce projet soit donc en deuxième lieu élu par les Angevins.
Voilà, puisque c'est le vote des habitants qui décide quels projets sont retenus.
Voilà, exactement. Ce projet-là, c'est vraiment un vœu des Angevins de le voir naître, puisqu'il y a eu le vote au budget participatif courant octobre 2018. Et donc là, le projet a été élu quatrième lauréat au budget participatif. On était super contents parce qu'on s'était vraiment mobilisés à fond. Et puis, on était contents de voir un écho citoyen de l'autre côté pour un engouement tel pour l'environnement, quoi. On était vraiment surpris. Et puis, on voit que ça ça s'essouffle pas, puisqu'au budget participatif 2019, on a vu que les projets écologiques ont été aussi énormément plébiscités. Donc, on est très heureux. Voilà, donc ce projet-là, quand il a été élu, donc on avait une légitimité encore plus forte à le porter. Donc on a rencontré énormément de personnes pour le voir naître. Entre autres, on a beaucoup travaillé avec Angers-Loire Métropole. On a rencontré des personnes des Parcs et Jardins, Bâtiments de France, complète avec moi, Christian, j'en oublie certainement.
Tous les services de la ville d'Angers,
les
marchés,
les
différents agents de quartier, les maisons de quartier.
Voilà, parce que du coup, la ville, c'est le creuset de beaucoup de choses, et donc il faut s'assurer que
tout le monde
soit aligné pour la réalisation du projet.
Il faut beaucoup de signatures, un peu partout, il faut aller rencontrer pas mal de personnes. On a même rencontré monsieur le maire sur une de ses permanences pour lui expliquer plus en profondeur le projet, pour défendre un emplacement en particulier. Donc voilà, donc ça nous a pris énormément de temps, d'énergie, et puis, à la fin, ça a apporté ses fruits, puisque on a inauguré le premier composteur, donc le 16 décembre. Ça me paraît hier, mais non, donc c'était le 16 décembre.
Mais alors, oui, mais alors, comment... Là, tu oublies le fait qu'il faut des gens pour venir alimenter le composteur.
J'oublie pas du tout, j'allais y venir parce que c'est toujours le meilleur pour la fin. Parce qu'on a une super équipe de bénévoles qui animent tout ça. Ils sont vraiment géniaux et je pense que Christian me rejoindra sur le fait qu'on veut vraiment leur rendre hommage encore une fois lors de cette émission, en leur disant qu'ils sont formidables. Parce qu'ils sont à peu près une vingtaine et donc ils ont fait leur planning eux-mêmes. ils s'organisent extrêmement bien pour faire en sorte que le composteur soit ouvert 3 fois par semaine. Ils sont 2 par permanence, donc il y a des référents qui chapeautent un petit peu l'organisation, et puis il y a les personnes qui viennent ouvrir aussi les permanences, qui prennent déjà beaucoup de temps aussi. Sur leur temps libre pour... Enfin, beaucoup de temps, non, je veux pas dire ça, parce que c'est... Ils s'organisent tellement bien que finalement, ça prend du temps, mais finalement, c'est accessible à tout le monde, ce genre de choses. Voilà.
Et au-delà le projet avait été avait reçu le vote des Angevins, mais du coup, après, quand on se met en pratique, il y a des fois, les gens disent « oui, c'est une bonne idée », mais quand il faut se mettre en pratique et apporter ses déchets, il y a moins de monde. Donc là, comment l'accueil, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés pour utiliser ce type d'équipement ?
Effectivement, on a été très surpris par l'intéressement ou l'engouement de ce quartier en particulier, puisque je vous dis, le jour même, le jour de l'inauguration, nos plannings étaient pleins, aussi bien sur ceux qui apportent leurs biodéchets que sur les bénévoles, puisque maintenant on a des listes d'attente des bénévoles, des listes d'attente sur un biodéchet. Donc on voit qu'il y a une réelle attente, en sachant, je veux dire un petit mot quand même, rendre hommage à Morane Berthelot. Parce que c'est elle qui chapeaute tous les bénévoles, et c'est vrai que c'est un véritable travail de fond depuis 2 ans. Et on est très sollicité par des demandes, aussi bien de l'extérieur, sur Angers, même à l'extérieur d'Angers, même en France d'ailleurs, puisque j'ai eu une interview téléphonique il n'y a pas longtemps pour la ville de Toulouse, sur le fait que ce composteur qui est hors sol, et qui est de nouvelle génération, et qui c'est le premier en France, il intéresse beaucoup de monde, mais il intéresse aussi les gens qui n'ont pas la possibilité, donc Bérangère le disait tout à l'heure, d'apporter leurs biodéchets dans un composteur, puisque c'est le cas sur le quartier de la Doutre, où il y a un immeuble, un logement social, il y a une 20aine de logements, et ils n'ont absolument pas d'espace commun pour mettre un composteur. Il y a une maison individuelle qui est en face du composteur, qui peut installer le composteur. Il y a l'EHPAD, où il y a quelques personnes qui font leur cuisine, mais ils n'ont pas de composteur dans leur jardin. On a affaire aussi à des étudiants qui sont de passage et dont leur immeuble n'est pas doté de composteur. Ouais. On est sollicité aussi par des personnes d'Angers, d'ailleurs sur 2 fois sur nos permanences, et qui souhaitent avoir le retour d'expérience. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le compostage en pied d'immeuble. Je suis guide composteur, référent sur un site, et je connais un peu toutes les astuces et puis tous les arguments pour convaincre soit des bailleurs sociaux, soit des syndics, et même des propriétaires. Donc c'est le cas. Et donc je suis amené, voilà, c'est mon... Donc on me disait tout à l'heure, on m'a donné le nom d'évangéliser. Oui, voilà, enfin, je communique gratuitement, bénévolement, mon expérience, et ça marche. Ouais.
Voilà. Et alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va voir pousser d'autres composteurs collectifs comme ça dans les années à venir?
On espère bien, c'est notre but. Alors, c'est vrai que ces objets-là, ils sont assez onéreux, c'est pour ça que, heureusement qu'il y a eu le budget participatif un peu qui est passé par là, parce que on ne sait pas encore si Angers-Loire Métropole voudra installer ce genre de matériel ailleurs, à moins qu'on, peut-être, on réédite la chose au prochain budget participatif, parce que bon, c'est vrai que ça a un coût quand même. C'est un objet déjà pédagogique. Et ça fait parler du compostage, donc nous, notre vœu, en fait, c'est, de par cet objet, faire fleurir d'autres sites de compostage en pied d'immeuble sur du sol. Parce qu'en fait, il y a des outils qui sont mis à disposition par Angers-Loire Métropole et qui sont portés par la Belle Verte, qui fonctionnent très bien et qui sont beaucoup moins onéreux et qui satisfont très bien pour le compostage. Après, ce genre d'outils-là, on espère que ça va se développer au maximum dans les endroits où les gens n'auront pas accès. Mais le mieux, c'est aussi d'ouvrir peut-être les composteurs qui sont sur le sol à des gens qui habitent en ville, et créer encore plus de liens entre les gens. Ça serait, enfin, ça c'est... ça serait génial. Bon, après, voilà. Mmh. On verra comment. On ne peut pas s'engager sur la suite des choses, mais on espère.
Monsieur Bergère, tu n'as pas dit que le prochain sera installé à bientôt, au mois de mars, sans doute Placenay.
Voilà. Au printemps.
Voilà, donc il y en aura quand même un deuxième.
Alors, oui. Alors, il y en a. En vrai, sur le budget participatif, c'était ça la question, mais j'avais pas compris exactement. Donc, les trois autres qui vont être installés, donc il y en a un au printemps Placenay, donc comme tu disais, Christian, et il y en a deux autres, dont un, on espère, Place Lafayette, et un en centre-ville, mais l'emplacement n'est pas encore complètement défini.
Ouais, moi, je vote pour Place du Ralliement, pour justement donner une belle vitrine
Ça serait génial. Place du Ralliement, ou vers Place Molière, ou voilà. Poissonnerie, ça serait génial. Ou Place un bac, bon, aussi. Voilà, voilà, on a quatre. Quatre places chouchou.
En tout cas, bravo, toutes mes félicitations pour ce projet. On vous parlera prochainement du projet des Vergers Libre-Cueillette qui était arrivé aussi deuxième, la même édition du budget participatif et dont les premières plantations auront lieu sans doute au mois de février. Donc, dans une prochaine émission, on vous en parlera. Je vais conclure en vous donnant l'agenda très rapidement. Je vous invite à aller sur alter49.org pour ces événements et puis sur le site aussi de En Transition, en-transition.org ou notre Facebook, Transition 49 je crois. Le lundi 13 janvier, un ciné-rencontre Voir le jour aux 400 coups. Un film peut-être dur mais qui montre bien justement comment on peut se questionner pour changer de vie. Il y a également ce soir-là un débat sur agriculture, santé, pesticides, de l'urgence d'accompagner le changement. Le mercredi 15 janvier, une soirée d'info sur l'agriculture industrielle, l'agrochimie et leur monde. Ensuite, le mercredi 22 janvier et samedi 25 janvier, le spectacle Hommage. Et puis, le dimanche 26 janvier, on a parlé Vivre mieux avec moins, Happy Transition, à